Au sommaire de ce journal, Moharram 2023, les musulmans du monde entier commémorent la tragédie d'Ashura. Les relations Iran-Azerbaïdjan, Téhéran et Bakou contre la présence des forces étrangères dans la région. Et puis la diplomatie iranienne condamne le nouvel attentat à la bombe à Damas, en Syrie. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Des cérémonies de deuil sont en cours dans tout l'Iran pour commémorer le triste anniversaire de la mort en martyr de l'imam Hussein, béni soit-il, le troisième imam chiite et petit-fils du grand prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed. Chaque année, des personnes en deuil, vêtues en noir, marquent l'occasion lors de processions massives dans les mosquées et les centres religieux. Les services de commémoration culminent avec l'Ashura qui tombe ce vendredi le 28 juillet de cette année. L'Ashura est le point culminant de 10 jours de cérémonie de deuil au cours du mois lunaire de Moharram. Le jour de l'Ashura, l'imam Hussein et 72 de ses fidèles compagnons ont tous été martyrisés et tués dans une bataille inégale contre le tyran de l'époque. Des millions de personnes en deuil, vêtues de noir, ont convergé vers le sanctuaire de l'imam dans la ville irakienne de Karbala pour lui rendre hommage. Le troisième imam chiite s'était élevé contre le régime tyrannique et avait refusé de capituler et tué en martyr dans un désert de la ville irakienne de Karbala, 50 ans après la disparition du noble prophète de l'islam, au moment où l'islam noble était en danger de déviation et de la déroute. L'imam Hussein a donné sa vie pour protéger l'islam et les valeurs islamiques nobles. Des siècles plus tard, l'héritage de l'imam Hussein perdure et inspire non seulement les musulmans, mais tous ceux qui sont d'esprit libre et qui luttent contre l'oppression. Sachez également que des millions de musulmans du monde entier commémorent l'Ashura qui marque l'anniversaire de la mort en martyr de l'imam Hussein, béni soit-il. Les ministres iraniens et azerbaïdjanais des affaires étrangères réitèrent sur leur position contre la présence de forces étrangères dans la région qui est contre-productive et destructive pour les pays régionaux, ont-ils insisté. Selon les deux très hauts diplomates, les problèmes régionaux doivent être résolus par les pays et les acteurs régionaux eux-mêmes. Ces remarques ont été faites lors d'un appel téléphonique entre le haut diplomate iranien Hossein Amir Abdollahian et son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov. Amir Abdollahian réaffirme que la coopération entre l'Iran et l'Azerbaïdjan est actuellement sur une voie constructive et positive. Il a qualifié de réussie une récente réunion de la commission économique conjointe entre les deux pays voisins, affirmant que de bons accords avaient été conclus, en particulier sur le transport ferroviaire et routier. Bayramov a pour sa part qualifié la récente visite d'Amir Abdollahian à Bakou d'importante, affirmant qu'elle a eu un impact positif sur les relations entre les deux pays. Il a également salué la position constructive de l'Iran sur la situation dans la région du Haut-Karabakh. L'Iran a fermement condamné un attentat terroriste à la bombe dans la capitale syrienne qui a tué au moins 6 personnes et blessé près de 30 autres. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que des groupes terroristes soutenus par les États-Unis et Israël commettent des crimes si odieux en raison du déplorable silence de la communauté internationale. Nasser Kanani a déclaré que ces atrocités surviennent à un moment où le peuple syrien souffre de sanctions cruelles qui lui ont été imposées par les États-Unis et certains pays occidentaux. Il a exhorté la communauté internationale à condamner les récentes explosions terroristes en Syrie ainsi que les actes d'agression d'Israël contre le pays. Le diplomate a également appelé à des mesures immédiates et efficaces pour lever les sanctions unilatérales imposées à la Syrie et fournir au pays une aide humanitaire. Aucun groupe n'a encore revendiqué cet attentat survenu la veille de l'Ashura qui marque le martyr du petit-fils du noble prophète de l'islam, le vénéré imam Hussein, béni soit-il. Le saint mausolée de la vénérée Zainab, bénie soit-elle, petite fille du noble prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, et sœur de l'imam Hussein, bénie soit-il, est un lieu de pèlerinage où se recueillent les musulmans chiites du monde entier. Il s'agit de la deuxième attaque survenue cette semaine près du saint mausolée de la vénérable Zainab, bénie soit-elle. Mardi, deux civils ont été blessés dans l'explosion d'une moto dans le même secteur, selon des médias officiels, citant un responsable de la sécurité. Revendiqué par le groupe terroriste Daesh, un double attentat suicide en février 2016 à 400 mètres du saint mausolée avait fait 134 morts. Quelques semaines plus tôt, Daesh avait également revendiqué la responsabilité d'une triple explosion près du saint mausolée qui avait fait au moins 70 morts. L'Iran réaffirme sur le fait que la résolution de la question palestinienne dépend de la fin de l'occupation israélienne et de la reconnaissance du droit inaliénable des Palestiniens à déterminer leur sort. L'ambassadeur permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a fait ses commentaires lors d'une session du Conseil de sécurité. Amir Saïd Iravani a appelé à l'établissement de la souveraineté palestinienne sur toute la terre de Palestine. Il a ajouté que la politique de principe de l'Iran est de soutenir le droit légitime des Palestiniens à la résistance face aux actes d'agression d'Israël. Iravani a déclaré que le silence du Conseil de sécurité a rendu les résolutions de l'ONU inefficaces et a hardi le régime à poursuivre ses crimes contre les Palestiniens. Iravani a également dénoncé le blocus continu de la bande de Gaza par Israël, une punition collective inhumaine contre la population vivant dans l'enclave, a-t-il dénoncé. Il a qualifié le blocus de Gaza d'équivalent à un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Le représentant du régime israélien a une fois de plus fait des déclarations sans fondement et fausses contre l'Iran en nuisant et abusant de la tribune du Conseil de sécurité, a déploré l'ambassadeur d'Iran avant d'ajouter « Nous rejetons catégoriquement ces allégations sans fondement. De telles déclarations ne sont pas surprenantes, car la contrefaçon et les mensonges sont les outils systématiques de ce régime. » Ces allégations sans fondement visent à détourner l'attention de la question urgente qui est à l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, à savoir les crimes barbares perpétrés par le régime d'apartheid contre le peuple palestinien, a-t-il conclu. Enfin, l'Iran dénonce le sacrilège des icônes nationales et religieuses au Danemark. L'ambassade de la République islamique d'Iran au Danemark a publié une déclaration condamnant fermement la poursuite de l'insulte aux livres religieux et aux icônes nationales dans la capitale danoise, Copenhague. La déclaration publiée jeudi indique que de tels mouvements provocateurs sont complotés et mis en œuvre par des extrémistes et leur persistance ainsi que l'absence de mesures dissuasives et de poursuites judiciaires contre les contrevenants peuvent conduire à la haine et à la violence entre les personnes, les religions et les cultures, a-t-il averti. La liberté d'expression est considérée comme un principe fondamental des droits de l'homme qui ne doit pas être utilisé à mauvais escient comme une excuse pour profaner les religions, les livres divins ou les emblèmes sacrés ainsi que les valeurs nationales des nations, a souligné l'ambassade. La déclaration a été publiée après que des groupes nationalistes, islamophobes et extrémistes de droite au Danemark ont profané les livres saints des religions abrahamiques, les symboles nationaux de l'Iran ces dernières semaines. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'Afrique doit abandonner sa dépendance au dollar. La dédollarisation doit être effective sur le continent africain. Pour l'ancien conseiller économique du président sénégalais, l'Afrique doit battre sa monnaie, le franc africain, gage de son indépendance face au dollar. L'Afrique devrait adopter sa propre monnaie, le franc africain, et abandonner sa dépendance au dollar, a déclaré ce 28 juillet Chérif Salif Sy, ancien conseiller économique du président sénégalais Macky Sall, lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, repris par Sputnik. Nous devons renforcer la dynamique de dédollarisation dans tous les domaines parce qu'il est impossible que tous les échanges internationaux se fassent avec le dollar. L'Afrique, ayant son franc, peut en faire une nouvelle monnaie commune, ce qui permettra alors le développement du secteur privé africain, a-t-il expliqué. Selon M. Sy, l'Afrique doit rompre les relations traditionnelles avec certains de ses partenaires et laisser derrière elle son passé de continent colonisé. L'Afrique est la seule région du monde dont le développement a été déterminé de l'extérieur au cours des 4 derniers siècles. Les Africains se rendent compte aujourd'hui qu'il n'est plus possible de tolérer cela, ce n'est plus possible dans le reste du monde, a-t-il souligné. Plus tôt, le 27 juillet, lors de son intervention au premier jour du sommet Russie-Afrique, le président russe Vladimir Poutine a fait savoir que la Russie était prête à développer les infrastructures financières de l'Afrique. Il a appelé à passer aux monnaies nationales pour les règlements commerciaux avec le continent, y compris en roubles. Le deuxième sommet Russie-Afrique pour la paix, la sécurité et le développement a ouvert ses portes ce 27 juillet à Saint-Pétersbourg et il durera 2 jours. La création d'un moyen pour faciliter les transactions bancaires entre les banques russes et africaines est imminente et sera primordiale pour les deux parties, selon le vice-président Webb. Il est nécessaire de créer un système de relations directes entre les institutions financières russes et celles des pays africains, a estimé devant la presse Danila Algoulian, vice-président de la Société d'État russe de développement, à la veille du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Dans la situation actuelle, il est nécessaire de créer un nouveau système de relations de correspondance directe entre les institutions financières russes et les institutions financières des pays africains, a-t-il indiqué. Selon lui, les banques russes ont été exclues du système actuel de relations de correspondance basé sur SWIFT en raison de sanctions illégitimes. Selon lui, la création de ce nouveau système contribuera à diminuer les conséquences négatives. Avec son PIB supérieur à 3 000 milliards de dollars, sa population de plus d'un milliard d'habitants, l'Afrique est un continent au potentiel énorme qui est aujourd'hui un vaste champ d'opportunités pour les entreprises russes. L'Afrique est la région de l'avenir et nous sommes convaincus que nous pouvons construire cet avenir ensemble, a-t-il conclu.